Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 32. Je reçois Lucas, qui s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec deux copains de promo après avoir passé près de 10 ans dans le milieu des agences digitales. Ensemble, ils ont créé La Fourche pour que les produits issus de l'agriculture biologique soient accessibles à tous, et en particulier aux plus démunis. Il nous raconte comment il a sauté le pas après une période de transition qui lui a permis de se recentrer et de quelle manière il a travaillé pour développer ce beau projet. Bonne écoute.
Bonjour Lucas.
Bonjour JP.
Lucas, tu as 33 ans et tu es diplômé d'HEC. À la sortie de tes études, tu as travaillé dans le milieu du digital pendant plusieurs années avant de cofonder La Fourche avec des amis de promo. La Fourche qui est un supermarché en ligne éthique et solidaire. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et nous expliquer comment tu as opéré ce changement de voie pour rejoindre l'économie sociale et solidaire ?
Ouais, tout à fait. Merci de m'accueillir, JP en tout cas. On va peut-être commencer par La Fourche et en quoi ça consiste.
Ouais, très bien.
Alors, La Fourche, donc c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ans avec donc Nathan et Boris, qui sont en effet deux camarades de promo. Et donc, c'est un magasin en ligne qui se bat pour rendre les meilleurs produits bio et écologiques accessibles à tous, en proposant des tarifs qui sont jusqu'à 50% moins élevés que dans le commerce. Et on arrive à obtenir ces tarifs parce que La Fourche, ça fonctionne grâce à un modèle d'adhésion, en fait, à une communauté d'adhérents. Donc, pour accéder au catalogue et se faire livrer nos produits partout en France et en Belgique, il faut payer une adhésion qui est de 69€ par an. Et en fait, nous, c'est la fidélité de cette communauté qui est très engagée, donc il y a une récurrence d'achat et des paniers moyens qui sont plus importants, qui va nous permettre de diminuer nos marges par rapport à un magasin classique, et donc de proposer des tarifs qui sont aussi intéressants. En gros, nos adhérents, ils vont économiser 250€ par an grâce à nous. Et nous, on est vraiment dans une démarche voilà, d'accessibilité. Donc, par exemple, on a mis en place plein de systèmes pour que ces produits soient le plus accessibles possible. Donc, évidemment, les prix sont moins chers. Mais par exemple, pour chaque adhésion achetée, on va en offrir une à une famille en situation de difficulté financière.
D'accord, bah c'est une question que j'allais te poser justement en fait, qui est un petit peu le profil type, enfin quel est pardon le profil type un petit peu des consommateurs de La Fourche qui commandent chez vous? Ce sont des gens en difficulté financière ou ce sont des gens déjà engagés dans l'écologie comme tu le disais?
Alors c'est assez rigolo parce qu'on nous dit souvent que il y a souvent des partenaires qui nous contactent en pensant que la majorité de nos adhérents sont des Parisiens, des gens qui habitent en centre-ville de grandes villes, donc qui ont des revenus assez importants, qui sont aisés, qui sont très au courant voilà, des problématiques d'environnementales, de mieux consommer, etc. Alors, c'est des gens qui sont au courant, mais ce n'est pas du tout des gens qui sont privilégiés. On est sur 80% de nos adhérents qui sont hors des centres-villes des 10 plus grandes villes françaises. Donc, en fait, on a 80% de gens qui sont dans des zones périurbaines, dans des zones rurales, dans des petites villes. Et en fait, c'est des gens vraiment qui souhaiteraient consommer davantage de produits bio, mais qui n'en ont pas les moyens aujourd'hui. Et qui sont réticents, on va dire, de plus en plus réticents à aller en supermarché parce qu'ils se rendent compte que la qualité voilà, proposée en supermarché n'est pas celle que nous, on propose, parce que nous, on n'a que des produits de distribution spécialisée, donc qui ont des standards de qualité qui sont quand même plus importants, et on les sélectionne pour ça. On fait une vraie sélection voilà, des produits et des producteurs les plus engagés. Donc on a 85% de femmes aussi. C'est intéressant parce que on constate que la charge mentale n'est pas du tout partagée encore en France. Et donc c'est principalement des couples, hein, mais 85% voilà, des femmes font encore les courses dans les couples.
Et donc Lucas, c'est très intéressant ce que tu dis puisque au-delà de la statistique sur les femmes, ce qui explique que les gens viennent à La Fourche, c'est le fait de ne pas avoir accès directement à ces produits et donc de devoir faire de la mobilité pour y accéder autrement.
Alors il y a une question géographique, donc c'est des gens qui habitent loin en fait, bah, de magasins de, pro- produits bio, de magasins spécialisés ou de supermarchés tout simplement. Mais c'est aussi des gens qui ne peuvent pas y avoir accès pour des raisons financières, et c'est principalement ça. Il y avait une étude de l'agence bio il y a 2 ou 3 ans qui expliquait qu'il y avait 89% des Français qui souhaitaient consommer davantage de produits bio mais qui n'en avaient pas les moyens. Et donc nous, on répond vraiment à ce problème-là, quoi. C'est que ces produits sont quand même plus chers que la moyenne, et d'autant plus que les supermarchés d'ailleurs augmentent leur marge sur les produits bio, et donc les rendre plus chers de manière artificielle. Et nous, c'était vraiment un des problèmes auxquels on voulait répondre, c'est que voilà, les produits bio sont quand même reconnus comme étant meilleurs pour la santé, ils sont meilleurs pour l'environnement, et malheureusement, ils ne sont accessibles qu'à une frange de privilégiés, on va dire. Et voilà, et nous, on souhaite les rendre accessibles au plus grand nombre.
Et comment vous est venue cette idée à tous les trois? Comment est-ce que vous avez lancé le projet?
Alors, ça a pris un peu de temps pour que l'idée germe, mais globalement, l'idée de la fourche, c'est il y a deux volontés à la base de l'idée de la fourche. Il y a une première volonté qui est une volonté militante. On va dire que on croit très fort au pouvoir de la consommation positive, au fait que nous tous, en tant que consommateurs, on a le pouvoir de façonner la société demain, une société qu'on aimerait plus éthique et plus durable, en encourageant les marques qui s'engagent pour notre santé, pour l'environnement, pour les hommes. C'est un petit peu le credo qu'on s'est donné de « chaque achat est un acte de vote ». Et on pense vraiment que voilà, cette transition vers la consommation positive, hein, ce qu'on appelle la consommation positive, donc diminuer les externalités négatives en fait de la consommation, on doit la faire avec tous et pas avec justement les 10% des plus privilégiés. Et c'est d'où cette logique d'accessibilité. C'est à la fois il faut créer ce mouvement de consommation positive qui va permettre de changer la société, et en même temps on peut pas le faire avec juste 10% des gens, ça n'a pas de sens. Il faut embarquer tout le monde dans ce mouvement-là. D'où ben, ce modèle d'accessibilité, ces prix qui sont plus accessibles, ce modèle d'adhésion qui nous permet de pratiquer ces prix-là, et cette logique de buy one, give one, donc on offre des adhésions aux gens qui n'ont pas les moyens, pour vraiment élargir le champ de la consommation positive et ne pas faire qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'était les deux indignations, on va dire, le problème de la fracture alimentaire et le problème de une société qui se dirige vers une consommation effrénée qui détruit les écosystèmes, qui détruit les relations sociales. Et donc, il y a cette volonté militante. Et donc, on avait ça en tête et on réfléchissait avec mes deux amis. Et c'est un processus qui a pris un peu de temps. Moi, j'ai fait de la veille pendant 6 mois. Je regardais ce qui se faisait à l'étranger, je regardais les levées de fonds dans les incubateurs à l'étranger, aux États-Unis, dans les pays qui sont un peu plus en avance, on va dire, sur ces sujets. Et au fur et à mesure de nos recherches, on a identifié quelques modèles qui étaient en train de se lancer à l'étranger et qui pourraient être appliqués en France. On n'a pas inventé grand-chose, en fait. On a regardé ce qui se faisait à l'étranger et on a regardé ce qui coïncidait avec nos compétences et nos envies militantes de changer le monde et d'essayer d'œuvrer pour une cause qui a du sens. Et on est tombé sur la fourche.
Et ça existe depuis combien de temps maintenant?
Alors on a eu l'idée, en fait, on s'est vraiment posé la question de lancer le projet en début 2018. On a commencé à bosser en début 2018, on a lancé le site en fin juin 2018. Donc ça fait un peu plus de 2 ans.
Si on revient maintenant un petit peu sur toi, ton parcours plus personnel, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avant et comment s'est passée un petit peu cette transition?
Ouais, bien sûr. Ben, moi, avant, je faisais de la data analyse, de la data marketing en gros. J'étais rentré dans des agences de marketing digital. Et au départ, j'avais créé un pôle, une business unit qui était dédiée à la data marketing dans une agence qui n'en avait pas auparavant. Donc j'avais créé tout le côté prestations de services. Et l'idée, c'était vraiment comment obtenir le meilleur ROI, un retour sur investissement sur mes campagnes d'acquisition marketing en ligne.
Et il y avait une partie logicielle aussi où qu'on était spécialisé dans l'attribution marketing. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que je pense que ça n'a pas intéressé grand monde. Mais voilà, on était sur un sujet assez pointu dans le domaine de la data marketing. Et ensuite, voilà, je suis passé d'agence en agence et à la fin, je dirigeais des pôles dédiés à la data marketing dans des agences, des grandes agences de marketing digital. Mais j'avais toujours, si tu veux, j'ai toujours eu au fur et à mesure des années, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui avait du sens, mais au fur et à mesure des années, cette envie s'est faite de plus en plus pressante. C'était un petit peu comme une boule au ventre, voilà, qui a commencé à grossir, et arrivé à 30 ans, en fait, j'ai plus pu me voiler la face, quoi. Tu vois, j'étais obligé de changer, d'arrêter pour faire quelque chose qui me correspondait plus et qui allait dans le sens de la transition, parce que tu avais à la fois la conviction que, la prise de conscience grandissante des enjeux d'écologie et de croissance d'inégalité, qui pour moi sont les deux grands sujets, tu vois, aujourd'hui, auxquelles notre génération et les suivantes devront faire face. Et la conviction que je devais commencer à œuvrer sur ces sujets-là, parce que déjà, si je ne le faisais pas maintenant, à 30 ans, je ne le ferais plus. En tout cas, ce serait beaucoup plus difficile après. Et donc, ce moment où tu arrives un petit peu, un moment où tu te dis, si je n'y vais pas maintenant, en fait, j'y irai probablement jamais, quoi.
Et tu parles de prise de conscience, c'est quelque chose qui était absent chez toi, je dis absent entre guillemets, hein, bien entendu, tu as réalisé à un moment particulier l'urgence écologique, la crise des inégalités, ou c'est quelque chose qui est plus latent et qui s'est fait de plus en plus pressant en toi ?
Non, je dirais que c'est un processus, moi ça fait des années que je m'intéresse à ces sujets, et si tu veux, ça fait des années que j'essaye de avant de lancer la fourche, de créer un projet, de travailler sur ces sujets. Moi, j'ai toujours eu, tu vois, si tu rencontrais mes amis, ils te raconteraient ça, mais j'ai toujours eu un side project, j'ai toujours eu un projet sur le côté, qui me permettait d'avancer sur ces sujets. Mais j'ai jamais réussi, en fait, à vraiment me lancer tout en ayant un travail à côté. Et j'ai testé plein de choses, j'ai eu plein de projets, lancer un média engagé, je travaille sur plein de sujets, mais j'ai jamais réussi vraiment à vraiment lancer quelque chose tout en travaillant à côté. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête mon boulot, quoi. Je peux pas faire autrement. Donc ça a mis un peu de temps pour obtenir une rupture conventionnelle, parce que j'avais pas d'argent de côté, donc j'avais besoin du chômage. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai démissionné, j'ai réussi à avoir une rupture, et ça m'a donné l'assise financière pour pouvoir me poser 6 mois en me disant, qu'est-ce que je vais faire? Ce sera quoi mon projet? Qui c'est que je peux, avec qui je peux m'associer? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais cette prise de conscience, elle est profonde, et ça fait des années que j'ai conscience de plein d'enjeux, mais ça s'est fait, c'est grandissant, et puis je pense que tout le monde s'en rend compte, tu vois, les problématiques sont de plus en plus prégnantes et de plus en plus visibles, donc c'est normal aussi que la prise de conscience soit de plus en plus forte au fil des ans, quoi.
Et le cap de la trentaine n'a pas aidé non plus, du coup?
Le cap de la trentaine, c'est un peu le moment où tu te dis... Moi, j'étais à l'époque, tu vois, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de prêt, donc j'étais dans une relative liberté, même une liberté absolue, quoi. Je n'avais que moi à gérer, et de se dire, en fait, là, je peux encore faire plein de choses, j'ai pas vraiment de contraintes financières, de famille, etc. Et en fait, plus j'attends, plus les contraintes vont s'ajouter. Et en fait, plus j'attends et plus ce sera difficile. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et puis pour tous les gens qui hésitent à se lancer et qui se disent... Parce qu'il y a toujours ce trade-off entre est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que j'ai vraiment acquis toutes les compétences dont j'ai besoin pour me lancer? Est-ce que je suis prêt à sauter le pas? Ou est-ce que j'attends encore un peu pour me perfectionner, améliorer mon réseau, acquérir un peu plus de connaissances sur ces sujets? Mais en fait, plus on attend, plus c'est difficile à cause de toutes ces contraintes qui s'accumulent au cours des ans. Et donc, il faut vraiment voilà, faire un arbitrage entre les compétences qu'on acquiert et la confiance, finalement, qu'on acquiert, et bah, le temps qui passe, finalement, et les petites brindilles qui s'accumulent dans les rouages et qui nous empêchent, en fait, de prendre des risques.
Et alors, je reviens un petit peu sur ce que tu disais au moment où tu as décidé de te lancer. Toi, tu as d'abord pris la décision donc, de quitter ton entreprise avec une rupture conventionnelle pour te laisser le temps de la réflexion sur ce que tu voulais faire après. Mais tu n'avais pas encore contacté tes deux futurs associés pour réfléchir à un projet. Vous n'aviez pas encore quelque chose en tête ?
Non, non, non. Moi, c'était vraiment, j'arrête tout. J'avais besoin de réfléchir, tu vois. Je savais pas encore dans quoi j'allais me lancer. Je savais que j'avais envie de lancer un projet, monter une boîte. Je savais que voilà, c'était ça que je voulais faire, mais je savais pas exactement quoi. Je savais pas avec qui. Et du coup, ah ouais, non, je me suis laissé 6 mois, 1 an, quoi, pour réfléchir à tout ça. Je suis parti en voyage. J'ai fait un stage de méditation Vipassana. Je ne sais pas si tu connais ce genre de stage, mais c'est quand tu pars méditer pendant 10 jours sans parler, 10 heures par jour, que je conseille absolument à tout le monde. Et je pense qu'il m'a donné aussi la force, tu vois, de travailler un peu tout seul sur ces sujets, de commencer en fait tout seul et de renouer avec son réseau, d'aller rencontrer voilà tous mes amis potentiellement qui étaient dans des situations similaires. Après j'avais un espèce de groupe WhatsApp où on se retrouvait entre tous les gens un petit peu de voilà qu'on connaissait qui étaient dans ces mêmes sujets de je change de boulot, j'aimerais bien monter une boîte, j'aimerais bien me lancer dans le freelance, etc. Et pour pas rester seul chez nous, on se retrouvait les uns chez les autres. Et voilà, et pour se challenger sur les différents sujets sur lesquels on évoquait. Et puis c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé avec Nathan et Boris, quoi. On était tous en transition et on n'avait pas forcément les mêmes projets à l'époque. Et en se rencontrant, en discutant de chacun de nos projets, ben voilà, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on avait envie de se lancer ensemble et qu'on avait envie de lancer la fourche.
Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir créé un groupe WhatsApp où vous retrouviez ensuite les uns chez les autres pour justement parler et être ensemble dans cette quête de ce que vous allez faire, dans cette transition pour en discuter. Est-ce qu'il y avait des sujets précis que vous abordiez? Comment ça se passait, ces réunions?
Alors, c'était vraiment quelque chose de complètement informel. Hein. C'était plus, en fait, quand tu bosses de chez toi, c'est hyper dur en fait, tu vois, de garder une routine, d'être dans une positive, dans une attitude positive. Tu vois, il faut vraiment rencontrer des gens, il faut vraiment confronter ces idées. Tu peux vite rentrer, tu vois, dans des espèces de boucles où tu vas bloquer sur un sujet, sur un projet. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, non, en fait, c'est nul, laisse tomber ce truc et passe à autre chose, tu vois. Et c'est des moments aussi où tu traverses voilà des périodes de doute, des périodes d'enthousiasme, et tu as besoin de les partager avec des gens. Et donc, c'était plus, en fait, chacun a un peu ses sujets, mais retrouvons-nous au moins pour travailler ensemble et au moins pour, tu vois, déjeuner le midi ensemble et profitons-en pour se partager un petit peu. Donc, il n'y avait pas vraiment d'agenda, il n'y avait pas de programme, c'était plus on se retrouve ensemble et chacun peut voilà, jeter un œil sur aider l'autre dans sa réflexion. Et on avait fait ça, tu vois, avec mes anciens associés. Il y avait Cyrielle, d'ailleurs, que tu as interviewé, qui en faisait partie. Voilà, pas mal de potes, bon, souvent des potes de promo, mais pas que. Et c'était un groupe ouvert, donc on demandait à tout le monde de rajouter tous les gens qui étaient dans cette période de transition. Et à la fin, on était une vingtaine. Et c'est vrai que ça nous a vachement dynamisé, quoi. Ça a dynamisé la réflexion. Et on prenait des week-ends entiers à la fin. On prenait des week-ends entiers pour partir se poser à la campagne, tu vois, et bosser sur nos sujets, quoi.
Ouais, je trouve ça assez chouette comme manière de procéder, parce que ouais, c'est vrai que c'est difficile d'avancer tout seul, et surtout dans la confrontation des idées, comme tu le disais. Je pense que c'est qu'on soit en recherche de freelance, de création d'entreprise, ou même simplement de renouveau dans son engagement professionnel. Ouais, c'est bien de pouvoir se confronter aux idées des autres.
Hein. Ouais, absolument. C'est nécessaire, je dirais même, parce qu'en fait, quand tu es tout seul, hein, c'est hyper dur de garder la tête froide et de faire la part de ce qui est bien et de ce que t'as ce que toi t'estimes être bien, mais en fait ça n'est pas tant que ça, et t'as vraiment besoin d'être du regard extérieur, en fait.
Et par rapport à ton entourage et ta famille, quand tu as décidé de faire une rupture conventionnelle, sachant que je ne sais pas combien de temps ça faisait que tu évoluais déjà dans ce milieu du digital, que tu avais quand même un gros poste, ça a été quoi un peu la réaction des gens autour de toi ?
C'était un mélange de bienveillance et d'anxiété, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le côté « bon, bah écoute, tu as l'air de savoir là où tu vas, en tout cas d'avoir... » De enfin agir en rapport avec tes convictions et d'aller dans la direction voilà, vers laquelle tu souhaites aller. Mais c'est vrai que voilà, tu tournes le dos à... Moi, j'avais une position pro qui était hyper enviable. Quoi. Je voyageais partout en Europe, je travaillais avec des gens très intelligents, j'étais hyper valorisé dans mon boulot, je manageais des équipes, tu vois, de 10-15 personnes, j'étais hyper bien payé, j'avais des horaires de travail qui étaient raisonnables, enfin, sur le papier, j'avais un potentiel de, tu vois, d'évolution qui était hyper intéressant, je discutais avec des décideurs en entreprise qui avaient des vrais pouvoirs de décision, enfin, ouais, sur le papier, c'était parfait, quoi. J'avais 29 ans, tu vois, donc c'était vraiment ouais, une situation qui était hyper enviable, mais voilà, toujours cette espèce de boule qui grossit, et donc ça, ma famille s'en est rendu compte que j'avais besoin de le faire. Après, il y a toujours cette anxiété de bah, les temps sont incertains, financièrement, comment tu vas faire, c'était quand même une bonne situation. Donc voilà, c'était un petit peu un mélange, mais globalement, je pense que j'ai quand même été assez... assez bien accompagné par la famille, quoi. J'ai pas eu de grosses crises ou d'ultimatum, tu vois, ou de membres de ma famille qui m'ont dit, faut absolument que tu fasses ça. C'était plus, bon, j'espère que ça va marcher. Ça me fait un petit peu peur quand même, mais bon, vas-y, quoi.
Et tu parles de peur. Toi, t'as pas eu peur à ce moment-là? Comment tu t'es senti?
Au contraire, en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai quitté mon boulot. J'ai eu peur quand j'ai sauté le pas et ouais c'est, à ce moment-là c'est vrai que c'est tu vois tu dis adieu enfin à un poste qui est assez qui est reconnu mais j'avais toujours aussi la conviction de comme j'étais quand même dans une industrie tu vois qui où il y avait une industrie où il y avait énormément de boulot donc je savais quoi qu'il arrive je pourrais retrouver du boulot dans cette industrie 2 ans après. Il n'y aurait eu aucun souci. Donc, j'étais pas non plus. C'était pas un saut dans le vide avec un non-retour. Quoi. Je pouvais toujours reprendre un boulot, alors peut-être pas aussi bien que celui que j'avais, mais bon, au moins j'aurais essayé. Quoi. Et cette peur, en fait, au fur et à mesure du temps, s'est un peu transformée en enthousiasme. Quoi. Au bout d'un moment, en fait, tu commences à creuser, tu te rends compte que tu. Bah, ça avance et que potentiellement bah, tu as trouvé des associés, que vous avez trouvé un projet, bah, là en fait c'est l'enthousiasme débordant et là la peur disparaît complètement. Enfin, c'est l'inverse. Quoi. Là tu es sur les rails et tu te sens bien et toute ton énergie en fait, est décuplée parce que tu as l'impression d'avoir enfin trouvé ta voie. Quoi.
Et bah, justement, j'aimerais bien revenir sur cette période-là, puisque c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui a lancé une boîte avec 2 associés en même temps, où il n'y avait pas une idée de départ commune. Donc j'aimerais bien comprendre un petit peu comment ça s'est fait, comment vous vous êtes dit « Ok, déjà, on y va ensemble », et comment est-ce que vous avez abouti sur ce projet qui est La Fourche aujourd'hui ?
Bah, c'était... en fait, on... Alors, Nathan et Boris, ils étaient en train de réfléchir à un projet ensemble. Moi, je les ai rejoints un peu à ce moment-là. Moi, je faisais de la veille. Tu vois, je passais vraiment beaucoup de temps à étudier des business models, à me renseigner, à rencontrer des gens, etc. Donc, moi, j'arrivais avec pas mal de recherches, en fait, pas mal d'éléments sur les tendances qu'on pourrait faire, les nouveaux modèles, etc. Et eux, en fait, étaient sur un projet qui n'avait rien à voir et qui était un peu en train de capoter. Parce que, voilà, pareil, ils ont fait leur recherche, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas le faire. Et en fait, on s'est posé ensemble et on a commencé, parmi ce que j'avais commencé à élaguer, à regarder, on a commencé à se poser sur les différents sujets. Et en fait, on était très, très conso, en fait, parce qu'il y a cet aspect, tu vois, militant de la consommation positive. Et on était... et Nathan avait une affinité particulière pour le retail. Boris avait une affinité particulière pour les ops, les opérations. Et en fait, on a regardé différents projets. Et voilà, et c'était vraiment un trade-off entre le sens derrière, nos compétences à nous, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce projet. Moi, j'avais fait du web marketing, Nathan avait fait du conseil avec beaucoup de retail, Boris, tu vois, avait fait du conseil et des ops, tu vois, spécialisé dans les ops, dans les achats. Donc, ça faisait sens de faire quelque chose dans le retail. Et on y voyait vraiment un levier de transformation de la société hyper important, quoi. Et pouvait s'exprimer, si tu veux, chacun de nos affinités, tu vois, la création d'une marque, les ops, hein, là, vraiment là, un sac de nœuds à démêler pour Boris. Donc il y avait plein de choses, en fait. C'était une analyse, tu vois, qui à la fois mêlait de la rationalité froide. Ok, en quoi ça consiste, c'est quoi nos compétences, comment on peut les valoriser dans ces différents sujets, et une espèce de voilà, de volonté de changer le monde et de se dire bon ben il faut quand même qu'on mette nos compétences au service d'une cause qui nous dépasse et qui œuvre voilà pour l'intérêt général. Et c'était vraiment ce trade-off entre de quoi on est capable et à quoi on aspire, quoi. Et c'est tombé sur la fourche. Je sais pas si je suis clair ou si.
Ah si, je trouve que t'es très clair. Et je voulais justement continuer un peu dans cette conversation, savoir si vous avez utilisé une méthode particulière pour en arriver là, si vous vous êtes fait aider, comment est-ce que vous avez posé les bases, en fait ?
Pas vraiment de méthode particulière. C'était vraiment... Enfin, moi, j'avais identifié, si tu veux, une vingtaine, je pense, de potentiels secteurs, projets différents. Et en fait, on les a regardés les uns. Et en fait, il y en a deux ou trois qui nous ont vraiment tapé dans l'œil. Voilà, en faisant ce mélange d'analyse froide, rationnelle, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on aime, et à quel point ce projet s'inscrit, tu vois, dans la transition écologique, à quel point ce projet va permettre d'œuvrer à l'intérêt général. Et après, en fait, on a commencé, si tu veux, on avait aux États-Unis, donc la fourche aux États-Unis, il y a un projet voilà, similaire qui s'appelle Thrive Market qui a été lancé en 2014. C'était une de nos inspirations. Il y avait aussi un autre projet qui avait été lancé aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom et qui a fait d'ailleurs faillite il n'y a pas longtemps, mais qui consistait voilà, à créer une marque propre directement et à la proposer, et écologique et responsable, et à la proposer à la vente en e-commerce. Et ouais, c'était un peu les deux sujets qui nous intéressaient. Et en fait, on a commencé un peu à creuser les economics, quoi, à faire notre BP, tu vois, à regarder un petit peu comment ça allait fonctionner, à interroger. Quand on a commencé à... En fait, quand on s'est posé sur cette idée, c'est là où la méthodologie a commencé. Mais avant, c'était vraiment est-ce qu'on le sent ou pas, tu vois, est-ce que ça peut le faire en fonction de nos affinités, de nos compétences et de notre volonté voilà, de nous inscrire dans la transition. Et ensuite, après, on s'est dit, on se donne 4 mois pour faire notre BP avec des éléments tangibles. C'est-à-dire qu'on va aller rencontrer des gens de la distribution spécialisée. Donc, on allait rencontrer des acheteurs, on allait rencontrer des directeurs de magasins bio, on allait rencontrer des producteurs, on a fait des analyses de prix, on a regardé si c'était possible, en fait, tu vois, de faire des réductions de 30%, alors que dans le retail, traditionnellement, les marges sont très faibles. Comment est-ce que tu fais pour faire ces réductions-là? Quelles économies tu dois avoir pour que ce soit possible? Quel niveau d'engagement tu dois attendre de tes membres? On a commencé à répondre à toutes ces questions, et ça s'est terminé par un voyage à la Biophare, qui est donc la plus grande foire du bio, de producteurs bio en Europe, qui est à Nuremberg. On a rencontré 200 producteurs, tu vois, en quelques jours. On a présenté le projet pour savoir s'ils étaient OK pour bosser avec nous éventuellement. Et voilà, c'était un petit peu la fin de notre analyse, la fin de ce travail-là, où on avait un peu tous les éléments pour se rendre compte que c'était possible, en fait, que le projet était viable économiquement. Et là, c'était juste la question était, est-ce qu'on va arriver à bosser ensemble? Tu vois, on se connaissait, on était potes, mais ça, c'est une question hyper importante. Et on s'est dit qu'on se laissait, six mois pour à travailler ensemble avant de se décider de lancer une boîte, la boîte quoi. Et en fait, là, ça faisait quoi? C'était en mars ou en avril, donc ça faisait déjà trois mois qu'on bossait ensemble sur justement le business model. Est-ce que le modèle est viable? Et voilà, on se rendait compte que ça fonctionnait bien, donc on s'est dit bon bingo, on y va et c'est bon quoi, on lance le truc et dans trois mois on a un site et un mini entrepôt et on commence à vendre quoi.
Mais c'est vrai, c'est hyper intéressant que tu soulèves ce point, puisque c'est que ce soit au niveau des associés ou des collectifs, c'est souvent en fait le facteur humain qui fait qu'un projet va capoter ou non. Et du coup, vous, ça s'est bien passé, vous avez tout de suite senti que vous pouviez travailler ensemble.
Ouais, ça s'est hyper bien passé, complètement. Moi, je connaissais un petit peu moins Boris. Hein, on faisait partie de la même promo, mais avec Nathan, on avait fait notre échange universitaire ensemble. Donc, on était les deux de la promo, tu vois, partir au Chili, étudier ensemble. Nathan, je le connaissais extrêmement bien. On était comme cul et chemise au Chili, on a vécu plein d'aventures ensemble. Boris, je le connaissais, tu vois, c'était un pote de campus, mais j'avais pas passé ce temps privilégié pendant des mois, tu vois, à fréquenter, à passer énormément de temps avec lui. Et donc, c'était aussi le temps, voilà, qu'on se connaisse mieux. Et en fait, voilà, ça a été un petit peu la bromance, quoi. On s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on s'entendait hyper bien et que ça fonctionnait hyper bien. Donc, c'était une bonne surprise. Après, il y avait pas trop de doutes non plus, tu vois. On n'était pas stressé par rapport à ça, parce que voilà, on se connaissait quand même, tu vois. On se disait bon, voilà, on sait que on est avec des gens qui ont des valeurs humaines extrêmement fortes et qu'on partage. Donc il y a peu de raisons que ça se passe pas bien. Après, c'est plus sur le taf, tu vois. Est-ce qu'on a le même niveau d'intensité? Est-ce qu'on a le même, tu vois? Est-ce qu'on bosse de la même manière? Et en fait, c'est ce qu'on a voulu vérifier sur les premiers mois et ça a bien fonctionné.
Si on se tourne maintenant vers le futur, comment est-ce que tu perçois l'avenir, toi, au niveau professionnel, mais au niveau personnel ?
Au niveau professionnel, moi, je perçois l'avenir de manière plutôt positive. Je pense que les projets qui fonctionnent vraiment, c'est des projets qui s'inscrivent dans une temporalité qui est dans une époque, en fait. Et j'ai la prétention de penser que la fourche s'inscrit dans son époque, parce que c'est un modèle qui est profondément vertueux et qui permettra d'ajouter sa pierre, voilà, à la transition vers ce que je te disais tout à l'heure, une société qui est plus respectueuse des environnements, des hommes et de la santé des consommateurs. Donc je pense que on est... je pense que professionnellement ça va bien se passer et voilà, et notre trajectoire aujourd'hui aussi le prouve. On est quand même allé assez vite, tu vois, on a lancé la fourche en 2018, à l'été 2018. Notre premier recrutement, c'était en février 2019, et aujourd'hui on est quasiment 70. Voilà, tu vois, en un an et demi, on a recruté 70 personnes, quoi.
Donc, ah oui, c'est énorme.
Ouais, c'est assez intense, je te le confirme. C'est assez intense. Mais voilà, ça veut dire que ça se passe bien, que les résultats sont au rendez-vous. Alors, je vais pas dire que c'est facile, hein, c'est loin de là. Hein, c'est vraiment compliqué de monter sa boîte, mais c'est hyper enrichissant et ça nous apprend plein de choses, et moi j'ai jamais été aussi, tu vois, heureux de bosser autant, quoi. Donc là-dessus, il y a aucun souci. Donc moi, l'avenir professionnel, je le vois pour nous, hein, de manière vraiment auto-centrée, la fourche, hyper positive, et je pense qu'on va réussir à conserver cet esprit un peu militant de consommation engagée. On était les premiers, par exemple, à calculer l'impact carbone de tous les produits alimentaires sur notre catalogue. Premier magasin à le faire en France. Unique, d'ailleurs, magasin à le faire en France, toujours. Hein. Ça, c'était il y a un an. Tu vois, on va arriver à 25% de personnes qui sont en réinsertion à l'entrepôt. On travaille avec l'Image Défi, on travaille avec des écoles de la seconde chance, on travaille avec des ESAT.
on va intégrer de plus en plus d'informations sur les produits pour que les consommateurs fassent les choix les plus éthiques, tu vois. Donc on intègre le score UCAR, on va rajouter un éco-score là prochainement qui va un peu plus loin que le score carbone, qui prend en compte vraiment toute la dimension écologique. On sera les premiers à le faire aussi, premier magasin. On est en train de lancer notre marque propre, donc directement on va avoir directement un producteur et on la lance sous le nom La Fourche. C'est la première marque propre en France qui est co-créée donc avec notre communauté, co-créée sur la base, donc là, ça veut dire que la communauté en fait va choisir tous les éléments du cahier des charges, va voter pour un type de production, une origine, un packaging, etc. Et en fonction de ces choix, le prix varie, mais aussi l'impact carbone. Donc ça, c'est aussi une démarche qui pousse vers plus de transparence et de pédagogie autour de l'impact de nos choix de consommation en fait, au quotidien, sur l'environnement, etc. On a des projets aussi pour créer des partenariats avec des associations de premier plan, pour pouvoir distribuer nos adhésions gratuites via des programmes d'aide aux familles les plus démunies, etc. Donc, on a plein de projets qui se lancent. Et en fait, plus on avance et plus on se rend compte qu'on peut avoir un vrai impact, tu vois, sur la société et qu'on commence à être reconnu, qu'on commence à être entendu, tu vois, typiquement sur l'impact carbone. Moi, je me suis retrouvé à des réunions au ministère de l'écologie parce que on était les seuls à l'avoir fait en France. Et dans la loi, y a une loi qui est sortie sur l'économie circulaire où il y a une partie sur l'affichage environnemental. Moi, du coup, je me suis retrouvé avec des groupes de travail où j'étais en phase de Carrefour, donc directeur de la RSE de Carrefour, directeur de la RSE de Casino, de Leclerc, de toute la grande distribution française, alors que nous, on est La Fourche et on fait 2 millions d'euros chiffre d'affaires, si tu veux, donc à l'époque. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on commence à être reconnu, identifié et partie prenante de sujets qui auront un impact profond sur la vie des Français dans les années à venir. Donc moi je suis assez positif, hein. Enfin, je suis même carrément positif sur le futur. Donc ça c'est pour le niveau pro. Le niveau perso, le niveau perso, c'est moi personnellement, mon niveau de bonheur est très lié à celui à comment fonctionne La Fourche, donc moi ça va. Après voilà, c'est vrai que le contexte est un peu en ce moment, le contexte est un peu compliqué, donc c'est il faut rester positif, quoi, et il faut essayer de continuer à œuvrer pour un meilleur avenir, même si voilà, les temps sont un peu durs en ce moment, hein, faut pas se voiler la face.
Je trouve ça aussi assez remarquable, tout ce que vous faites au niveau de l'engagement pour l'insertion des personnes en difficulté et le fait de renvoyer des abonnements à des personnes, à des familles qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Est-ce que tu veux développer un peu cette partie-là ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer là-dedans ?
C'était vraiment cette conviction, hein, dont je te parlais au départ, d'ouvrir, de rendre accessible au plus grand nombre ces produits, parce que voilà, cette transition de la consommation positive, elle peut pas se faire avec une frange de la population qui est la plus privilégiée. Et à partir de ça, donc il y avait le modèle d'adhésion qui permettait d'avoir des meilleurs prix, de diminuer nos marges. Nous aussi, on a la conviction, si tu veux, que la distribution dans la chaîne de valeur de l'agroalimentaire a accaparé une trop grande partie de la valeur. Et en fait, nous, à travers La Fourche, on a envie de faire passer un message qui est de dire, en fait, nous, on est juste des distributeurs, quoi. Il n'y a pas de raison que le distributeur, en fait, se retrouve mastodonte au milieu, écrase les distributeurs et propose, tu vois, des produits au final qui sont de moins en moins de qualité aux consommateurs et du coup un peu arnaque le consommateur, on va dire, le trompe sur la qualité de ses produits. Et La Fourche, c'est aussi une manière de dire, mais en fait, nous, on est juste des intermédiaires entre les producteurs qui font quand même la majeure partie du boulot, parce que c'est eux qui font pousser les produits, c'est eux qui les transforment et qui en font des choses délicieuses, etc. Et le consommateur, qui est là pour les acheter. Et ce modèle-là aussi, ça permet de réduire les marges. Et c'était ça un petit peu la logique. C'est, voilà, on veut réduire les marges, on veut réduire la partie, la valeur qui revient à la distribution. Et c'est comme ça que dans la chaîne de l'agroalimentaire qu'on veut agir.
Et sur les adhésions offertes, c'était une volonté dès le départ. Et aujourd'hui, en gros, aujourd'hui, si tu veux adhérer à la fourche et que tu considères que... Alors, on se base sur le quotient familial de la CAF. Alors, je crois que la limite, c'est 800 euros. Mais en gros, si tu es en dessous de 800 euros, tu fais une demande à la fourche et on t'offre ton adhésion, tout simplement. Ça se fait de manière... Les gens le demandent. Et nous, on aimerait bien faire des campagnes pour que les gens le sachent, en fait, et pour directement toucher les gens qui sont en difficulté. D'où les partenariats qu'on essaie de passer avec des associations. Aujourd'hui, donc j'en dis pas plus parce que c'est en négociation, mais en gros, aujourd'hui, on pourrait passer, en fait, via des associations qui sont directement en contact avec des populations qui sont en difficulté et qui pourraient, de manière proactive, proposer notre service, proposer une adhésion gratuite, en fait, à ces populations. C'est un petit peu ça la logique. On aimerait faire des partenariats pour toucher directement ces publics.
Affaire à suivre donc, et on sera attentif dans les semaines ou les mois qui viennent à de potentielles annonces.
Tout à fait.
On va arriver à la fin de l'émission, Lucas, et je voulais savoir si tu avais des conseils ou des recommandations à donner aux gens qui veulent s'engager mais ne savent pas trop par où prendre le bon bout, on va dire, par rapport à ton expérience.
C'est un peu ce que je fais. Je pense qu'il y a différentes manières de le voir, parce que tu vois, moi, j'ai plein de copains. Comme tu disais, hein, le gap des 30 ans, c'est quand même un moment où il y a pas mal de gens qui décident de sauter le pas. Et il y a eu un peu tous les cas de figure. C'est-à-dire que moi, j'étais incapable, si tu veux, de me lancer vraiment dans un projet, dans une réflexion de fond sur ce que je voulais faire en ayant un boulot à côté. J'ai jamais réussi à le faire. Et comme je te disais, j'avais toujours plein de projets, mais que je menais pas à leur terme, parce que, au bout d'un moment, je m'épuisais, parce que je bossais le week-end, je bossais le soir, et à la fin, j'en pouvais plus, et je laissais tomber le truc. Après, j'avais une petite période d'euphorie, où je me disais, c'est pas grave, je retourne je me développe pas dans ma vie professionnelle, tu vois, mais dans ma vie personnelle. Et après, je me disais, mais non, c'est pas possible, attends, le boulot, c'est quand même la majeure partie de ta vie, donc il faut vraiment que tu t'y remettes, etc. Mais j'ai jamais réussi. Et pour moi, le déclencheur, ça a vraiment été de quitter mon boulot. Alors, je sais que, je suis pas forcément un exemple à prendre, parce que j'avais une situation qui était confortable, et j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, et avec un chômage qui me permettait de vivre pendant 2 ans. Mais en tout cas, si on a la possibilité de faire ça, c'est vraiment une bonne solution. Par contre, après, il faut bosser, quoi. C'est pas 2 ans à regarder les petits oiseaux, quoi. Quand je faisais de la veille, je faisais du 8h 20h, quoi. Tu vois, je bossais vraiment sur ces sujets-là et j'étais pas du tout en train la contemplation, je suis pas en train de dénigrer la contemplation, hein. Attention, c'est important de contempler le monde et de prendre du temps pour soi, pour réfléchir. Mais c'est une période qu'il faut mettre à profit pour vraiment avancer. Les conseils que je pourrais donner. Donc moi mon conseil, c'est sauter le pas, quoi. Il faut vraiment. Moi j'ai pas réussi à le faire, et pourtant Dieu sait, j'ai voulu le faire auparavant et j'ai pas réussi à le faire. Sans quitter mon job. Je pense qu'il faut prendre une petite période de transition aussi pour se poser et se recentrer. Je pense qu'on est tous dans des... On est soumis à plein de tensions et quand tu es dans un environnement professionnel, tu peux... Ton esprit va être focalisé sur certains sujets, etc. Et je pense que c'est bien. Et moi, c'est quelques voyages qui m'ont permis ça. Enfin, j'ai quitté mon boulot, je suis parti un petit peu en voyage. Et après, cette petite période de vipassana m'a vraiment permis de me recentrer, de me focaliser sur ce qui était essentiel pour moi. Quand je suis sorti de là, c'était clair, quoi, dans mon esprit. Ok, je veux aller dans ce sens-là. C'est ce que je vais faire. Ça m'a donné la force d'y aller. Une petite retraite, un trek, tu vois, aller partir marcher dans la nature, prendre ces moments pour soi où en fait on n'est pas, il n'y a pas tous les grésillements, habituels du monde, et on se détache un petit peu et on se concentre sur l'essentiel. Je pense que c'est important. Mais sinon, ouais, enfin, il faut y aller, quoi. J'ai pas de, il y a ce truc de contraintes et d'arbitrage, ce dont je te disais, entre plus on attend en fait, et plus c'est dur, à mon avis, hein, de se lancer, de prendre des risques, parce que ça demande quand même certaines prises de risque de monter sa boîte. Et donc, faut vraiment. Je sais qu'on a souvent on a envie d'attendre parce qu'on a peur de se lancer, et on se dit qu'on n'a pas la capacité. Mais la vérité, c'est que plus on attend et plus ce sera dur logistiquement, quoi.
Lucas, merci beaucoup pour ton témoignage et ses conseils. Et puis, je vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance à tous les trois dans cette aventure qui est la fourche. Je vous dis vraiment bravo pour ce que vous faites. Et puis, je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, JP. À très bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !